Ça sur le niveau réchauffement climatique, à moins qu'on change drastiquement, immédiatement et résolument de paradigme de contrat social, si je peux dire, avec, ou du moins de contrat passé avec la nature. Pour moi, Exode était toujours quelque part inévitable. Donc, je me suis quand même beaucoup documenté. J'ai essayé de faire une apocalypse réaliste. Là, ce n'est pas une invasion de zombies, ce n'est pas un virus mutant qui décime l'humanité, c'est juste l'humanité qui se décime toute seule, ou du moins qui est détruite par les colères de la nature, si je peux dire. Et Exode décrit la fin de la société humaine. Pas exactement la fin de l'humanité, en tout cas pas la fin de la planète. L'apocalypse reste purement humaine. La Terre s'en fiche complètement des apocalypses. Elle en a vécu une bonne demi-douzaine déjà depuis qu'elle existe. Qui a amené à des extinctions massives d'espèces au moins cinq fois qui ont été répertoriées par les. Donc là, on est en train de la sixième. Effectivement, ça va apporter des changements profonds dans notre société. Alors, je ne sais pas que ce qui se passe dans l'exode nous arrive, évidemment. Mais pour moi, c'est une des conséquences possibles.
Merci. On m'a informé que Charlotte Bousquet allait nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, quelques jours, je crois. Je voudrais poser une question à Christopher Priest. Il m'apparaît, je ne sais pas, j'ai l'impression que les récits apocalyptiques, c'est un peu une spécialité anglaise. C'est-à-dire, si on pense par exemple au livre de Ballard, qui c'était une spécialité de ce type de récit, Christopher Priest, vous pouvez nous parler de votre position par rapport à cette. Au récit apocalyptique, pourquoi vous en écrivez vous-même?
Hello. Yes, about 50 or 60 years ago, a lot of British writers were writing novels about the end of the world. I mean, you've mentioned Ballard, but there were also Tom Wind and John Christopher, lesser writers at the same time. And it was widely thought. Basically, afterwards, people kind of made this a parallel with Britain losing the empire, because during that period in the early 1950s, because of the results of the Second World War, one by one, the countries which were part of the empire said they want independence, and gradually the empire disappeared. And so, in a sense, there's a kind of unconscious acceptance of a social feeling. Kind of filters through to what you're writing. What's interesting to me at the moment is that Britain, in particular, is going through an apocalypse now. And there's a larger apocalypse, and I'm not talking about Donald Trump. the particular British apocalypse is of course Brexit, which is an absolute disaster for not only for my country but for Europe. And it's like the temple that Solomon pulled down a couple of pillars, the whole thing fell over. And I really fear for the results of this. As one, a direct result of the Brexit referendum, I moved out of England. I don't like what's going on in England now. It's become an extremely unpleasant place with all sorts of undercurrents of racism now out in the open. People are openly racist. It's absolutely disgusting. And so I've moved to Scotland, which is the only part of Great Britain which voted unanimously to stay in Europe. And that, to me, is a refuge. I don't think it's a complete refuge, but it's certainly the approach to Europe is consistent with he just goes to the airport, gets on the plane, and flies back to Paris. I hate airports. This is my way of getting at them. The last thing I'll say before I stop is about the bigger catastrophe. Facing us all is climate change. We can't avoid it. It's happening. I was reading just this week that they're now finding large areas of greenery growing in Antarctica. My God, Antarctica's melting. Now that's big, because Antarctica is solid land. And in the Arctic, the ice that melts is sea ice. And so it melts from water into water. But with the Antarctic, deep layers of ice which are overland, and they will absolutely raise the level of the sea. It's an ongoing disaster. Now, what's going to happen? Well, we're already seeing the beginnings of the result of climate change in the immigration into Europe. We are cooler than the large parts of the world which are quite close to us. There are 120 million people who live within walking distance of Europe, and they are going to come. You can't live in a country where there's no water, where food won't grow, where disease is rampant, where other people are fighting wars all around you. People are going to leave. They're going to want to come to Europe. This is the apocalypse. I'm not saying it's a bad thing, but it's an apocalypse for now. And it's the generation of our children that are going to have to deal with it. And maybe we'll all live to see in 50 years' time post-apocalypse novels about this. But this is the serious side of science fiction, that science fiction actually reflects what's going on, often unconsciously. I think you'll see in the next couple of years quite a lot of novels coming out of Britain which will reflect this. And certainly, I think over Europe, more and more writers will be dealing with this feeling of doom that's coming over us all.
Cool. Bonjour, et oui, il y a 50 environ, il y a environ 50 à 60 ans, beaucoup de romans qui étaient écrits en Grande-Bretagne parlaient de la fin du monde. Vous avez cité Mallarmé, mais il y avait également John Christopher et pas mal d'autres écrivains un peu moins connus. Et les critiques après coup ont établi une sorte de parallèle entre cette tendance et le fait que la Grande-Bretagne perdait l'Empire. Dans les années 50, il y avait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pays en forme de révolte, donc beaucoup de pays en conséquence de la Seconde Guerre mondiale, demandent alors l'indépendance et l'Empire était en train de disparaître. Donc il y avait peut-être à travers ces romans qui étaient parus une forme d'acceptation inconsciente de ce sentiment social, et c'était une chose qui percolait à travers l'écriture et qu'on retrouvait dans pas mal de romans de l'époque. Mais en ce moment, la Grande-Bretagne vit véritablement une apocalypse. Alors il y en a une plus grande, mais je ne parle pas de Donald Trump. Cette première apocalypse qui concerne la Grande-Bretagne, c'est bien sûr le Brexit, qui est un désastre absolu, et pas seulement pour mon pays, mais également pour l'Europe. Ça me fait un peu penser au Temple de Salomon, où on avait quelques piliers et l'ensemble s'est écroulé. Et j'ai très peur des conséquences que le Brexit risque d'entraîner. Mais de façon très directe, ça révèle tout un tas de courants sous-jacents qui sont extrêmement déplaisants. Il y a des courants sous-jacents racistes en Angleterre qui maintenant sont apparaissent au grand jour par conséquence du Brexit. Pour ma part, j'ai du coup décidé de déménager en Écosse, puisque c'est la partie de la Grande-Bretagne qui a voté massivement pour rester dans l'Europe. C'est une forme de refuge pour moi, alors ce n'est pas un refuge absolu, mais en tout cas, il y a là-bas une approche de l'Europe et une approche des choses qui est cohérente avec la mienne. Une approche également qui me paraît beaucoup plus saine, relative aux arts, relative à l'écologie et l'environnement. Bref, c'est un endroit plus doux, à bien des titres. Je suis en train d'écrire un roman actuellement, alors ça ne parle pas du Brexit, mais à un moment, mon personnage vit en Écosse. Et il doit aller prendre l'avion pour aller à Londres, et il se tape 2 heures de contrôle aux frontières, de sécurité, de douane, il est obligé d'enlever ses chaussures, puis il est obligé d'enlever son pantalon. Enfin, il faut faire toutes les choses vraiment déplaisantes qu'on fait dans les aéroports. C'est un petit peu, je déteste les aéroports, c'est un petit peu une forme de revanche personnelle. Mais un moment plus tard dans le livre, il doit aller à Paris. Et quand il retourne en Écosse, il n'y a absolument aucun problème, puisqu'en fait, dans mon livre, c'est juste en passant, mais l'Écosse, normalement, fait partie de l'espace Schengen. Donc, c'est une sorte de
politique. C'est quelque chose qui est inéluctable, qui est sur nous en ce moment. Je disais un peu tard la semaine dernière qu'il y a des zones en grande partie qui commencent à réagir. Et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux, ça veut dire que l'Antarctique est en train de fondre. Et le truc, c'est que l'Antarctique, c'est un continent, c'est de la Terre. Quand l'océan Arctique fond, bien sûr, l'Arctique fond, mais c'est de la glace océanique qui retourne à l'océan, alors que dans le cas de l'Antarctique, il y a là-dessous des couches de Terre, c'est un continent, et ça risque d'avoir des conséquences encore plus graves sur l'élévation du niveau de la mer. Et on commence déjà maintenant à voir les prémices des conséquences que tout ça va entraîner, notamment toute l'immigration qui va venir vers l'Europe, puisque l'Europe est favorisée par le climat. L'Europe est un endroit globalement un peu plus frais, et il y a environ 100 millions de personnes qui sont capables de gagner l'Europe à pied. Et je pense que c'est une conséquence qui va arriver. C'est normal, on ne peut pas vivre dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où on ne peut pas faire pousser de quoi manger, où les maladies se déclenchent rendent les pays de moins en moins habitables, où il y a des guerres, et si les gens vont choisir de partir, et si les gens vont choisir de venir en Europe. C'est une forme d'apocalypse. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais juste c'est un changement fondamental qui est en train de se produire, dont on voit les prémices et qui va se produire. Et la génération de nos enfants vont être forcés de vivre avec ça. Finalement, du coup, la post-apocalypse met en exergue le côté sérieux de la science-fiction. Et je pense, en fait, fréquemment, ce qui est en train de se passer dans l'inconscient collectif. Je pense que probablement un certain nombre de romans post-apocalyptiques qui sont en train d'être écrits en Grande-Bretagne en ce moment vont peut-être avoir un rapport avec cette apocalypse du Brexit qui est en train de se passer en ce moment, puisqu'il y a un sentiment assez lourd qui plane sur les consciences, peut-être inconsciemment, peut-être de condamnation ou un sentiment assez funeste qui peut-être là aussi va percoler à travers le sentiment de l'écriture en Grande-Bretagne.
Merci. Charlotte Bousquet nous a été rejoint. La transition, je vais lui poser la question sur le dérèglement climatique aussi.
magazine published in about 1905, and it contained advice for gentlemen on how to wear a hat. And this guy who had written this article had invented an automatic hat so that he had on his head and he walked around in his pocket, he had this sort of thing that he pressed. When he met a lady of his acquaintance, he pressed it, his hat automatically rose. Now the thing about this was that this was set in the year 2000. This was a kind of future projection. And of course, by the year 2000, the whole of society was completely different. And I mean, nobody wears hats now except for fun. You know, it hasn't had the same, the whole relationship to the sexes and walking down the street is so completely different. So what it is, instead, it's a very clear illustration of the assumptions and social mores of 1905. And if you learn that lesson, then you start looking at the world we're in very clearly, as clearly as you can, and then trying to use that as a metaphor at the basis of your of the fiction that you're writing.
J'ai oublié qu'il y avait une citation, j'ai oublié qui disait, je pense que c'était probablement Shelley le poète, qui disait le rôle du poète c'est de dramatiser, de mettre en scène. Et je pense que c'est encore plus spécialement vrai aujourd'hui. Le rôle de l'écrivain c'est de dramatiser, c'est-à-dire de mettre en scène, de montrer par exemple, pas seulement dans la littérature, mais également au cinéma, à la télévision, etc., de mettre en scène ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça m'est apparu vraiment très clairement. Quand on écrit de la science-fiction, on écrit toujours, finalement, à propos du présent, dans le monde dans lequel on vit. Et le futur, bien sûr, on essaie de l'imaginer, mais forcément, il reste imaginaire. Pour essayer de faire ça, on essaie de voir le jour présent, l'époque contemporaine, de la façon la plus claire, la plus lucide qui soit. Mais ça reste toujours un exercice, et ça m'est apparu. Il y a quelques années, je suis tombé sur un vieux magazine de 1905. Et ça, il y avait un texte où, en fait, il y avait des textes qui parlaient de conseils pour les messieurs pour porter correctement leur chapeau. Et il y avait un texte qui parlait d'un chapeau automatique. On avait un monsieur qui descendait la rue, il avait son chapeau en fait, dans sa poche, il y avait une petite machine. Et quand il croisait une dame, il appuyait sur le bouton et le chapeau se soulevait tout seul. Ce texte-là était une projection, ça parlait d'une vue de l'an 2000. Alors, c'était donc une projection de l'avenir. Et aujourd'hui, donc maintenant, on est dans l'an 2000, on sait évidemment que la société a totalement et radicalement changé, plus personne ne porte de chapeau, sauf pour le fun. Et toutes les relations entre les sexes ont entièrement changé. Et en fait, cette projection-là, finalement, elle n'est jamais qu'une illustration extrêmement claire de ce qu'étaient les mœurs sociales en 1905. C'est une leçon assez intéressante. On ne voit jamais le monde que de notre propre point de vue. Et donc, quand on écrit de la prospective, quand on essaie d'écrire de la science-fiction, on doit s'efforcer de le voir aussi clairement que possible. Mais notre prospective ne devient jamais qu'une métaphore fictive sur le monde dont on parle, et sur une métaphore sur le monde dans lequel on vit. Et c'est sur ça qu'on écrit, en fait.
Je ne peux qu'évidemment abonder dans ce que vient de dire Chris. Effectivement, jusqu'à preuve du contraire, aucun auteur de science-fiction n'a rien jamais du futur. Alors, il le cache bien. Donc, effectivement, on ne fait que parler du monde présent. Et je rajouterais même que la science-fiction est peut-être la forme de littérature la plus aboutie pour analyser et donner à réfléchir sur le monde complexe dans lequel on vit, de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à décoder. Je ne vois pas vraiment d'autres littératures qui soient aussi globalistes que la science-fiction. Parce que les auteurs de science-fiction ont l'habitude de mettre des univers en fait qu'on raconte des histoires qui se passent dans un avenir lointain, dans des étoiles, avec des empires galactiques, etc. Le propre d'une histoire de science-fiction, c'est quand même de décrire un nouvel environnement, une nouvelle société, d'imaginer comment un autre monde peut fonctionner dans le futur ou plus loin, dans l'espace, ou voire extraterrestre, etc. science-fiction permet justement de décoder cette société, de prendre tel ou tel aspect de la société, tel problème, par exemple le réchauffement climatique là, qui nous occupe aujourd'hui, et d'imaginer, voilà, de la pousser plus loin dans son évolution et d'imaginer comment la société va évoluer, quoi. C'est un peu de la perspective d'une certaine façon, tout en étant bien certain et en affirmant bien fort, comme Christopher vient de le faire, qu'en fait, imaginez, aucun auteur de science-fiction ne serait pas a priori faire de la prophétie ou dire qu'il va dire la vérité. Et je voulais ajouter une dernière chose avant de passer la parole, c'est que aujourd'hui, au XXIe siècle, en fait, je crois pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on se trouve confronté à un avenir inévitable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'humanité avait le choix de son avenir, avait des options même dans les pires périodes de guerre, de famine, d'épidémie, de malheur qui s'abattaient sur l'humanité. On pouvait toujours se dire que l'avenir allait être différent, on avait froid à l'avenir, on se disait on va bâtir un futur meilleur, etc. Et là, depuis, la fin du XXe siècle, on sait que quoi qu'on fasse, on a un avenir certain qui nous attend, qui va être la transformation plus ou moins radicale de la planète à cause du changement climatique. Quoi qu'on fasse et quoi que promettent les politiques avec les 8 à 2 degrés qui sont absolument ridicules et sans fondement, on sait que le monde va profondément se transformer. Même si demain on arrête de produire, d'exploiter du pétrole, de rouler en voiture, etc., et si on se met tout ça à l'écologie et qu'on s'éclaire tout ça avec des bougies, enfin j'exagère, mais en tout cas le monde va changer. Et en tant qu'auteur de science-fiction, ça interpelle forcément. Jusqu'à présent, les auteurs de SF des années 40, 50, etc., on imaginait des scènes post-apocalyptiques, genre la guerre nucléaire par exemple. Mais c'était une menace ou une possibilité. On espérait que ça allait pas arriver quand même. Là, maintenant, on se trouve face à quelque chose qui, de toute façon, va arriver. Et pour moi, en tout cas, c'est devenu un devoir, enfin, une obligation d'essayer de comprendre ce qui va arriver et de le mettre en scène, peut-être aussi pour exorciser cette crainte qu'on a tous de notre avenir proche.
J'ai entendu deux fois le mot prospective, une fois dans la bouche de Christophe, une fois dans la bouche de Jean-Marc. La prospective, si je ne m'abuse, c'est une science qui permet de prédire l'avenir. Il y avait, je me souviens qu'il y avait une revue qui s'appelle Futurib, je pense qu'elle existe toujours, qui traitait de ces questions. Et ce qui m'interpelle quelque part, c'est que les prédictions scientifiques proposées dans ces ouvrages se réalisent moins que les visions des auteurs de science-fiction. C'est un peu paradoxal, je trouve.
Je voulais reprendre la question d'avant, ça ne marche pas si on
va la faire. Vas-y.
C'est cette question d'être très intéressante. Mais la perspective, en fait, la perspective, ça rejoint aussi cette idée de la perspective, parce que je pense que ce sont des mécanismes. Ce qui m'intéresse en tant qu'auteur de science-fiction, ce qui relève de ma responsabilité, si j'en ai une, si tant est que j'en ai une, c'est d'explorer des voies nouvelles. Est-ce que les voies anciennes conduisent toujours au même résultat, c'est-à-dire conflit, guerre, exploitation abusive, etc. Donc, qu'est-ce qu'est cette malédiction qui fait qu'on reprend toujours les mêmes erreurs? D'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce que les gens votent Trump? Pourquoi est-ce qu'on va faire du gaz de schiste? Pourquoi on pense que le bonheur, c'est matériel? Pourquoi il nous faut deux voitures plutôt que d'une, parce que c'est mieux d'avoir deux voitures, parce que c'est finalement socialement acceptable d'avoir plusieurs maisons, plusieurs voitures, des possessions du matériel. Donc, pour moi, en quelqu'un qui m'appelle, mais c'est pas grave, pour moi, reprenez la ferme des animaux d'Orwell, sont des mécanismes qui se reproduisent en permanence, c'est-à-dire qu'une révolution va donner une nouvelle tyrannie. gens ne peuvent pas simplement essayer de trouver le bonheur, parce que c'est ça finalement je cherche inconsciemment. Et pourquoi on ne se retrouve pas? Parce que j'ai l'impression que c'est la pensée matérialiste qui fait qu'on est condamné à un échec permanent, et comme si la pensée, ça c'est ce que je vais essayer de me dire, la pensée crée du temps, du temps psychologique, donc crée des mécanismes temporels qui se remettent sans arrêt en place. Quelle que soit l'époque, vous allez toujours avoir des mécanismes de répression. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, ma responsabilité à moi, c'est d'essayer de trouver des nouvelles voies, d'explorer les nouvelles voies. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Hein. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais explorer la voie plus spirituelle, parce que spirituel, ça ne veut pas dire religieux. Pour moi, d'ailleurs, la religion est l'opposé du spirituel, parce que c'est une capacité matérielle de la spiritualité. Donc voilà, ça m'intéresse de trouver autre chose dans notre rapport, au monde, dans notre rapport à l'univers, pour essayer de se dégager de ces mécanismes permanents qui nous ramènent toujours au même schéma. Et là, c'est de plus en plus urgent parce que la puissance augmente en permanence avec la technologie. Pour moi, la technologie, la science, c'est la fille de l'Église, hein, c'est la fille des religions, c'est-à-dire c'est une pensée que le matériel peut donner le bonheur, ce qui est tout à fait dérisoire. Mais c'est pour cette chose-là que se battent les gens en permanence, c'est-à-dire de posséder étant peut-être une façon d'éviter de penser qu'on est mortel et qu'on va disparaître. C'est-à-dire que plus vous mettez des murs entre vous, la mort et vous, plus vous avez besoin de sens en sécurité. Donc c'est la peur qui inspire les gens. Et tout ce fonctionnement-là aboutit à la destruction. La peur aboutit à la destruction. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce qu'on peut se dégager de la peur? Est-ce qu'on peut penser que nous avons la responsabilité sur ce qui nous arrive à nous? Que ce n'est pas l'environnement qui va nous apporter le bonheur, ou ce n'est pas l'exploitation de l'environnement qui va nous apporter le bonheur, ce n'est pas la richesse qui va nous apporter le bonheur, c'est juste des illusions, des pensées fictives, des pensées de création de temps. Et donc, je pense qu'il y a une urgence de penser différemment, de rechercher des voies nouvelles qui soient complètement différentes, c'est-à-dire de repenser l'histoire en sortant des mécanismes. Et c'est ça qui, moi, j'essaie de trouver. Par rapport à la prédiction, il est évident que si on continue dans ce système-là, c'est très facile de prévoir l'avenir. C'est la destruction de plus en plus importante, de plus en plus totale. Et le plus apocalyptique, je pense, répond à cette question-là. C'est finalement, si on continue à faire toujours les mêmes mécanismes, eh bien, on va détruire complètement tout. Quoi. Ça s'appelle le Kali Yuga dans la mythologie indienne. C'est-à-dire l'âge noir, l'âge sur l'œuvre de fer. Et nous avons pas de l'âge de fer et comment se sort de l'âge de fer, c'est ça qui ne m'intéresse pas.
En quelque sorte, c'est que l'expression s'utilise dans un autre contexte, mais vous êtes un peu des lanceurs d'alerte. Oui. Vous considérez comme des lanceurs d'alerte.
Et j'ai envie de dire, en tout cas, la lumière de ton discours des porteurs d'espoir, se dire que l'écriture et les formes d'art en général peuvent, on ne peut pas dire éveiller les consciences parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, faire en sorte que les gens se posent des questions et essayer aussi de penser des solutions nouvelles, essayer de penser, mais simplement, ça peut être des itinéraires personnels. Alors, moi, je suis pas ce que. Autrice de science-fiction, je fais aussi de fantasy et autre chose. Mais pour moi, il n'y a pas particulièrement de différence. Il y a dans la mesure où, effectivement, on pose des mots, on pose des questions et on permet à des gens de trouver par eux-mêmes, des gens qui sont des personnages de fiction, des solutions et confrontés à des situations qui sont parfois dramatiques. Mais j'ai l'impression que c'est dire que. Tout est déjà noué, que de toute façon on ne pourra jamais rien faire. C'est aussi d'une certaine façon refuser de sortir d'un cadre de pensée dans lequel on est de toute façon enfermé depuis, j'ai envie de dire, des décennies, voire plusieurs siècles, si on pense vraiment aux chapes religieuses et industrielles. Et en fait, il y a d'autres solutions et d'autres solutions qui émergent actuellement dans notre monde.
Je je suis. Et essayer d'imaginer bah, justement comment l'humanité, enfin, ceux qui allaient survivre en tout cas, allaient traiter et s'adapter à ce nouveau monde, cette nouvelle planète sur laquelle on va vivre, parce que la Terre va changer, c'est clair. Donc l'humanité va devoir s'adapter, je veux dire, elle ne pourrait pas vivre dans des enclaves sous dôme, comme par exemple, ça, c'est pas viable à long terme. Et puis comment, eh ben, dans mon optique, se rendre compte au bout d'un moment qu'elle n'est plus l'espèce dominante sur la planète. Et ça, ça va changer clairement le paradigme que l'humain retrouve, en fait, ou se rappelle qu'au début de son histoire, c'était un être faible et chétif qui était à la merci de quantité de prédateurs. Et puis, bon, par sa ténacité et puis sa foi en la vie, peut-être justement, il a quand même réussi à survivre et à bâtir par peu une civilisation, donc il a abouti aux excès qu'on savait que Pierre a très justement souligné. Mais voilà, je pense qu'on a aussi effectivement des porteurs vers l'être, mais d'une certaine façon aussi, peut-être pas des porteurs, mais des créateurs d'espoir. En essayant de suggérer au moins des solutions alternatives.
Je vois qu'il y a un bon auteur d'anticipation, enfin anticiper la question que je voulais poser justement. C'est-à-dire, est-ce que vous apportez des solutions à part évoquer les problèmes dont il a répondu et qui
Oui, ok. On a tout I'm afraid I do always apologize for my ignorance of French, and I always feel very embarrassed by this. There's a difference in meaning in English between someone who predicts and a prophet. A prophet is basically a teacher, and this is the role that Christ played, for instance. He didn't predict anything. He taught what he saw as a moral framework. And I think science fiction writers really should be prophets rather than predictors. When you talk about extrapolation is actually a tool of satire. We're all being a bit sort of gloomy here, talking about the apocalypse, but one of the great pleasures of science fiction is satire. And the way extrapolation works is you identify a particular thing or trend or mannerism in life today, and exaggerate it so that you make a satirical point about that, and from that a larger picture emerges. And I don't think we should ever forget that side of science fiction, that the satirical side is very important, and some of the best American writers, like Vonnegut and Robert Sheckley, Frederick Cole, were great satirists, and the science fiction genre for that. It's nothing to do with the post-apocalypse, so I'm going to hand my microphone over.
Ce matin, j'ai entendu dire aux nouvelles que la famille royale d'Arabie Saoudite a été obligée de sortir acheter du ketchup, parce que Donald Trump ne peut pas manger son steak sans ketchup. Chaque fois que vous croyez que la science-fiction a vraiment trouvé le ton juste, Donald Trump va parler, faire un truc complètement nouveau et improbable que vous ne pouvez pas prévoir. Je voudrais m'excuser pour mon ignorance du français. En anglais, en tout cas, il y a une. Donc, je suis désolé, en anglais, on parlait de prospective. En anglais, il y a un sens, une connotation très différente entre prédire et prophète. Le prophète en français aussi. Le prophète je pense qu'on peut aussi parler de la notion de satire. On a été un peu sombré en parlant d'apocalypse, etc. Mais si on regarde et qu'on pousse la notion de perspective et d'extrapolation, il y a aussi un grand plaisir de la science-fiction qui est la satire, où on identifie quelque chose dans notre époque actuelle, une tendance, peut-être un maniérisme, une affectation, et on l'exagère. Et à travers ce point de vue satirique, peut-être on peut aussi dresser un cadre et un tableau plus vaste de la situation. Et je pense qu'il faut aussi mentionner, pas oublier cet aspect-là de la science-fiction, pour qui la satire est extrêmement importante. Certains des meilleurs auteurs de science-fiction américains, Kurt Vonnegut, Robert Sheckley, Frederick Pohl, étaient des grands satiristes. Et ce courant-là a informé et irrigué aussi grandement et a beaucoup apporté à la science-fiction. Et ce que je viens de vous dire, c'est vraiment rien à voir avec l'apocalypse, donc je vais laisser le micro.
Est-ce que vous apportez des solutions à part soulever des problèmes?
Pas particulièrement, je ne suis pas pour ça en fait. Non, puis le dernier mot, c'est qu'il y a. Il est tellement. Enfin, la fin est tellement sombre que non, je soulève des questions. Je suis pas. Je dirais que dans mon dernier ouvrage, c'est entre post-apo et dystopie, Sang de Lune. Il n'y a pas de solution, il y a une, j'ai envie de dire, un pétage de plomb généralisé et je dirais que les personnages ont plus un cheminement qui est une prise de conscience, un ancrage dans eux-mêmes et que cet ancrage va leur permettre effectivement de bouger, éventuellement ouvrir d'autres chemins ou pas. Et voilà, je suis vraiment plus là pour poser des questions. J'ai pas encore, je crois que j'ai pas très envie de donner des solutions, c'est pas moi de le faire. Je suis vraiment plus, moi mon truc c'est ça, c'est questionner les gens, questionner le rapport à l'autre, au monde. Et voilà.
Des solutions qu'on a fait, des solutions, c'est assez cher. Les gens, ça se connaître eux-mêmes.